It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes.
Loco Pelos, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Julien Soyer, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West.
Salut les amis, salut Julien Soyer.
Salut à tous.
Encore un but décisif de Khalifa Koulibaly face à Rennes la semaine dernière. Le football que tu aimes a permis à Nantes de gagner le derby. Mais Koulibaly va partir, fin de contrat Juju. T'as prévu quoi? Une petite soirée surprise? Un tifo de départ peut-être même pour Khalifa?
Je me tâte, j'ai encore quelques jours là avant de trouver.
Mais je parierais pas sur un départ moi.
Tu peux rejoindre mon fan club.
Je parierais pas encore sur un départ.
Première info de Sans Contrôle, Koulibaly fin de contrat va peut-être prolonger. Et donc, tu gardes ton tifo de côté pour l'instant.
6 buts en peu de temps quand même.
C'est vrai. Salut Pierre Arnaud Barre.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Après sa finale XXL, ton pote Nico Palois a donc envoyé une volée venue d'ailleurs face au Stade Rennais pour aller chambrer ensuite le parquage visiteur.
Une volée de bois jaune et vert.
Ouais, tu lances une souscription du coup ou pas pour lui dresser une statue? Là, non, je pense qu'il est temps.
C'est quand même incroyable. Non mais mon fan club, par contre, j'avais un abonné, un adhérent, c'était moi. Et là, on est vraiment très très nombreux aujourd'hui.
Les cotisations.
Rends l'argent. Rends l'argent.
Non, mais en fait, je veux transmettre mon RIB à chaque fois, FR42.
Bon, cet argent, c'est pas où il ira, donc méfiez-vous quand même de.
Tu veux faire une statue pour Nicolas Palois avec ou pas?
Bah en or.
Ah, c'était ça. Hein. Ouais, je te propose Vers-sur-Loire comme lieu d'implantation de la statue.
Bah pourquoi pas, écoute, ouais, de toute façon.
Toujours dans l'anticipation.
Puis c'est qu'à 20 minutes de Saint-Nazaire, comme tu veux.
Puis c'est qu'à 20 minutes de la Genolière et 40 minutes de la Beaujoire. À vélo, c'est parfait.
Vous l'avez déjà entendu, salut Jean-Marcel Boudard.
Bonjour.
Des irrégularités ont été constatées au concours de l'Eurovision le week-end dernier, dans les votes et dans les résultats. Je sais que t'es un grand fan de l'Eurovision, ta chemise aujourd'hui en témoigne. 3 salariés du FC Nantes ont fait de la garde à vue il y a quelques jours. Bref, Jean-Marcel, ici on ne jure que par la musique, l'Eurovision et les Canaries, les taux se resserrent en ce moment quand même, c'est compliqué. Hein.
Sur moi, je n'ai pas le rapport avec moi en fait, en termes de présentation pour que tu m'éclaires.
Mais les récents avec la justice peut-être, non? En matière d'infraction automobile.
Ah, celle-ci, je me disais, ça fait un mois que tu l'égares, je ne sais pas comment arriver, tu fais. Ouais.
Allez, salut à toi enfin, le fan des Canaries.
En tout cas, il a la ligne. Hein.
Oui, bah t'as raison, je fais du vélo. Allez, salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute.
Va descendre.
C'est vilain. Allez les Verts, qui chante ça? Les supporters, c'est comme ça que ce groupe s'était appelé, tout simplement. Bah oui, c'est quand même Nantes-Saint-Etienne, ce week-end, pour conclure la saison, monument en péril. Hein. Après avoir participé bien volontiers au naufrage de Bordeaux, les Canaries pourraient précipiter samedi Saint-Etienne dans l'abîme de la Ligue 2. Deux clubs rivaux du FC Nantes, souvenez-vous, dans les années 70, c'était les Verts, dans les années 80, c'était Bordeaux, tout un symbole. Au menu de ce 32e épisode saison 3 de Sans Contrôle, la quinzaine folle des Canaries, entre la Coupe de France, la victoire dans le derby face à Rennes, les dernières apparitions... Sans doute, sous le maillot nantais, peut-être pas de Koulibaly. Hein,
la volée de Nicolas Palois, s'il te plaît, reprécise-le quand même.
Ah, reprécise-le. Exceptionnel. Certains qui préparent les valises à venir en suspens pour Blas, Lafont, Simon ou même Antoine Comboiré. On va évoquer tout ça. Deuxième sujet du jour, Randal Kolo Muani est-il tout simplement le meilleur joueur du FC Nantes cette saison? On vous a demandé ça par sondage. Peut-il raisonnablement rêver d'équipe de France un jour, bientôt ou pas? Ça, c'est une vraie question posée par l'excellent Jean-Marcel Boudard, hein, qui va sans doute nous dire qu'il le voit rapidement en bleu. Ah, t'as pas aimé? Troisième sujet du jour, l'accalmie de la Coupe de France aurait été de courte durée. 3 salariés du FC Nantes soupçonnés d'être liés à des transferts douteux ont fait de la garde à vue. Pourquoi la justice s'intéresse-t-elle à l'agent Bakary Sanogo et quelles conséquences pour le FC Nantes? Allez messieurs, on approche de la quille, hein. Avant-dernière émission, une fin de saison de Sans Contrôle, c'est triste, un peu comme une fin de colo.
On n'a pas envie que ça s'arrête.
On n'a pas envie. Hein.
Pour une fois, par rapport à l'année dernière, on n'a vraiment pas envie que ça s'arrête.
On a quelque chose pour se remonter le moral, Pab.
Eh hey, oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non?
Hey, oh, let's go.
Sans Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
L'actu du FC Nantes ne s'arrête jamais. Sur les 15 derniers jours, et c'est pour ça que je vois vos yeux épuisés, le FC Nantes a quand même gagné la Coupe de France, puis Comboiré et Kita se sont embrouillés par voie médiatique, puis les Canaries ont trouvé l'énergie incroyable de renverser le Stade Rennais. Ils s'apprêtent à faire la fête face à Saint-Etienne, avec des larmes peut-être pour certains joueurs que l'on ne reverra pas.
The Cure.
The Cure, bien
Boys
sûr.
Boys Don't Cry. Il y a une très bonne émission le samedi matin sur France Inter, d'ailleurs. La chanson préférée de Pab en déplacement, il la demande tout le temps dès qu'on est dans un bar.
Tube de
non,
cure.
Ce que magnifique. Je chante le plus souvent depuis deux semaines, c'est Nantes FC Coupe d'Europe, Nantes FC Coupe d'Europe.
Ce tube de cure Boys Don't Cry qui était aussi la sonnerie du lycée Nicolas Appert pendant toute une période où les élèves à l'époque choisissaient la musique pour faire sonnerie.
Donc t'as été au lycée Nicolas Appert pour en parler.
Ouais, non mais franchement, je trouvais ça super. Maintenant, c'est les vieilles sonneries la nuit et tout, ridicule. Bon, avec un peu de recul, les garçons vont-ils pleurer ou pas, ceux qui vont partir, hein, vous voyez le rapport. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette séquence? C'est hallucinante, les copains. La coupe est retombée, les bisbilles président-coach dans la foulée, le derby de fou, la fête prévue face à Saint-Etienne ou ceux qui vont partir, les joueurs qui vont jouer leur dernier match avec Nantes contre Saint-Etienne. Jean-Marcel.
Ah, c'est dur de commencer par moi. Bah, évidemment, le titre, c'est compliqué quand même de faire. Bah, c'est quand même l'événement, je pense, de ces 20 dernières années au FC Nantes, donc c'est compliqué de pas en parler. C'est parce qu'en plus, il était. Inimaginable, impensable, improbable.
Pab.
Bah, je suis évidemment d'accord avec Jean-Marcel Boudard.
Je sais pas pourquoi je te
comme
pose
dans
la question.
Chaque émission, mais je vais quand même prolonger.
Allez, choisis autre chose.
Je vais prolonger en parlant. Bah, alors, vous allez être surpris, mais c'est la volée de Nicolas Palois. Le but et surtout l'explosion du stade dans la foulée, parce que moi j'ai vécu à ce moment-là la prolongation de cette finale de Coupe de France. Parce que le derby, il manquait la tribune noire qui était fermée. Il y avait l'ambiance, mais les Rennais faisaient pas mal de bruit.
Particulier, ouais.
C'était un peu particulier comme ambiance. Et là, Nicolas Palois, il met cette volée. T'as la victoire, derrière t'as le stade qui explose et les 20 dernières minutes c'est une folie.
Une folie.
Ouais, moi aussi c'est le sportif dans son ensemble en fait, c'est cette victoire en Coupe de France, la victoire contre Rennes. Et puis forcément on a une pensée pour les joueurs qui vont peut-être partir, en tout cas il y en a un c'est sûr. Et puis pour ceux qui peuvent effectivement quitter le FC Nantes sur
donc
un
t'arrives
titre,
à répondre bon, t'arrives à répondre sur tous les thèmes en fait.
Ouais, ouais, il
c'est A B O C, il dit moi je trouve
c'est
que c'est A et aussi B puis
non,
un deux, c'est quand
il
même.
Se régale parce qu'à Nantes c'est il se passe toujours quelque quoi. Chose il se régale.
Et tu notes pas les buts de Koulibaly?
Le
parce
sportif.
Que le but de la cuisse, du haut de la cuisse de Koulibaly, franchement, il est beau.
Mais c'est le sportif.
C'est en renard géant des surfaces, ce but-là. On va égrener de toute façon tous ces points-là. Moi, je suis déjà, c'est vrai, j'ai pas que j'ai oublié la coupe, mais je suis déjà dans les larmes. J'ai hâte d'être à Saint-Etienne, regarder un peu l'attitude des uns et des autres sur le terrain, les au revoir à la Beaujoire ou pas, pour déceler leur envie de partir ou pas. On va en parler. La coupe, d'abord, et c'est retombé. On a parlé de l'événement. Au Stade de France, ambiance, etc. Jean-Marcel, t'as kiffé ce qui s'est passé sur le terrain. Les retombées pour le Football Club de Nantes, au-delà de la qualification européenne, est-ce que ça a reboosté l'image du FC Nantes, puisque tu parles de cet événement comme l'événement majeur de la fin de saison, Jean-Marcel, est-ce que voilà, le club peut tirer profit, vraiment, pour attirer des joueurs, pour faire du merchandising, pour retrouver une cote d'amour dans la situation compliquée?
Non, mais dans n'importe quel club, je dirais que dans n'importe quel club normalisé, oui, on doit capitaliser dessus, on doit capitaliser parce que déjà il y a des gens, je pense qu'ils étaient un peu éloignés du FC Nantes qui en sont revenus. Il y a des gens aussi qui attendaient, toute une génération qui attendait d'un titre, un soir de liesse, donc il l'a eu. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement normalement.
Est-ce que ça peut être balayé par tout ce qu'on a raconté après?
Oui, c'est pour ça que je dis normalement on devrait capitaliser. Après l'histoire récente nous a appris, je prends un exemple qui était dramatique, et le décès d'Emiliano Sala, il y avait eu tout un mouvement quand même, il y a eu plein de choses qui ont été faites, il y a eu une vive émotion. Et il en est, à part en tous les cas, qu'est-ce qui reste de cette émotion là il reste cette 9e minute,
l'hommage à la 9e minute
par les supporters.
Ouais,
on peut pas dire
la fresque à Carquefou,
la fresque à Carquefou, mais qui a pas eu non plus je crois pas qu'il, enfin il me semble pas avoir vu des gens du club, de la direction qui était. Donc
Romain Thomas, le Carquefolien qui joue avec Angesco, y était.
Oui, donc enfin voilà, ça en dit beaucoup aussi sur des occasions ratées, je trouve. Et donc c'est pour ça que je m'attends pas non plus à un grand changement, parce que on a un titre qui était imprévu.
Bah oui, je suis d'accord avec toi. Bah on l'a vu, tu l'as dit dans le sommaire tout à l'heure.
Tu peux peut-être épargner cette phrase à chaque fois, parce que
c'est vrai.
Non, mais tu l'as dit tout à l'heure.
Juste quand tu n'es pas d'accord, en fait.
Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure dans le sommaire, Simon. En fait, une actu à Nantes, en plus, c'est un club quand même incroyable. C'est que tu as à peine gagné la Coupe de France qu'une demi-heure après, on a à peine le temps de descendre les tribunes pour aller en zone mixte interroger les joueurs, qu'il y a déjà les polémiques Comboiré.
Alors, on glisse là-dessus.
Pour faire la parenthèse, quand même, sur l'engouement, moi, j'ai adoré quand même les supporters. Enfin, l'engouement de ce club qui est passé, quand tu te souviens du Quetta Circus, qui est toujours là, mais l'affront des supporters, les stades en plus à huis clos, les finales de Coupe de France à huis clos, les dernières. Là, tu te retrouves avec un stade avec 50 000 Nantais, du jaune partout, le documentaire d'Anthony Marseille qui est super avec
les
supporters, ouais. On le salue.
Par contre, c'est là où
le lendemain, place Foch, alors que même s'il y a eu des ratés, tout ça, t'as quand même un engouement derrière. Et je pense que les gens aujourd'hui
ont envie de retrouver...
Grand public. Et
grand
ça,
public, qui suit de loin, qui va une ou deux fois dans l'année à la gauche.
Ces gens-là, ils étaient éteints ces dernières années.
Bien sûr.
Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent sont encore contents aujourd'hui. Et ils sont fiers d'être nantais, ce qui n'était plus le cas ces dernières années.
Il y a aussi un engouement Tribune Loire. Là-dessus,
ouais, il n'y a pas que les gens qui suivent de loin.
Au-delà de la Brigade Loire, je pense que même ceux qui suivent de près, je pense qu'ils se sont remis à revivre quelque chose.
Aussi.
En tous les cas, autour de ce club ou avec ce club, par contre, où je suis d'accord avec toi, si ça a changé quelque chose, c'est dans la perception du grand public du FC Nantes, alors qu'il y a une perception biaisée parce que forcément il en est éloigné de son quotidien, donc c'est là-dessus que ça a changé quelque chose. Mais pour le reste,
sur la capacité,
et notamment,
il y a 45 000 au stade de France, 20 000 à Nantes, autant devant la télé, donc c'est 150 000 personnes. Ne suivent pas au taquet le FC Nantes.
C'est quand même pas mal déjà de mobiliser 50 000 personnes.
Je trouve que c'est déjà des gens qui avaient envie de faire la fête et qui étaient frustrés depuis des années.
Il y a eu pas mal de commentaires d'ailleurs sur les réseaux sociaux où certains avaient un peu oublié qu'il y avait une vraie culture foot à Nantes.
Oui.
J'en parlais avec certains. Pour moi, ça fait partie du top 5 français, on va dire Marseille.
Qui a traversé des générations.
Marseille, Lens, Saint-Etienne, Strasbourg, Nantes. Voilà, c'est ces clubs-là en France où il y a vraiment une culture. Et comme tu dis, en plus, il y a une transmission. Donc, je pense que là-dessus, elle a aussi ravivé, en tous les cas, ceux qui suivent le FC Nantes de loin dans les milieux des supporters, qu'il y a un vrai public à Nantes et qui sont capables d'être à la hauteur de l'événement.
Je voudrais qu'on enchaîne. Cet enthousiasme a été un peu douché, nous disait Pab, par la bisbille médiatique, hein, parce que c'est par voie de médias que Comboiré a pris la parole, puis que Kita a hésité à répondre et ensuite a répondu quand même, ça manque de courtoisie. Enfin, en conférence de presse, Comboiré a dit bon, j'arrête là, en gros, je remets pas une pièce dans la machine et on discutera avec le président Kita. Est-ce que ça a un peu gâché la pré-finale ou pas? Et est-ce que ça laisse des traces ou pas, selon toi, Julien?
Laisser des traces, je ne sais pas, mais gâcher la pré-finale à notre étage, oui, en fait. C'est-à-dire que ceux qui suivent le club en tant que dans le cadre de leur travail, les gens qui vivent au club, je pense, ont été un peu attendaient un moment d'euphorie aussi depuis un moment et depuis longtemps. Et puis là, ils ont eu à peine le temps de savourer cette coupe et déjà ils se sont dit ah bah ouais, en fait, le quotidien. Du FC Nantes, ça c'est reparti quoi. Est-ce qu'on va garder le même entraîneur plus de 2 ans de suite? Est-ce que vers quel mercato on se dirige, etc. Donc pour nous qui sommes des travailleurs sur le FC Nantes et pour les gens du club, je pense que oui. Pour
le grand supporters, public, les supporters qui suivent de près nous ont envoyé des messages et allez c'est reparti 24 heures après. Hein,
oui,
ceux qui suivent de très
près.
Oui,
mais n'empêche qu'on a vu que contre Rennes, la force du sportif avait quand même été plus forte que tout, puisque contre Rennes, à partir du moment, comme l'a dit Pab, où Nantes est revenu au score, puis après il y a eu le but de la victoire de Nicolas Palois, le public s'est remis à chanter, danser, comme dans la prolongation, enfin entre guillemets, une vraie prolongation effectivement du Stade de France. Quoi.
On va parler du Stade Rennais et de ce derby de fou, mais on fait un stop donc, sur la bisbille présidentielle coach. En écoutant Comboiré, sa dernière prise de parole sur le sujet, c'est chez nos amis de Prime Vidéo. Il fera un bilan dans la semaine qui arrive, mais voilà ce qu'il dit. On se demandera s'il reste ou pas.
Moi, je suis là pour faire mon travail. Moi, je ne m'entends pas toujours avec le président. Et c'est comme ça. Quand on est dans une famille, des fois, il y a des disputes. Mais par contre, quand on se met au travail, on travaille pour porter haut les couleurs donc, de notre club. Et c'est ce qu'on fait. Moi, quand je viens au stade, mes problèmes avec la direction, mes problèmes avec les joueurs même, je les mets de côté. Et puis j'ai qui n'en dit en tête, c'est travailler pour gagner le match qu'on joue. Non mais aujourd'hui, de toute façon, j'ai pas pris de décision, mais après, je vais être très honnête avec vous. Quoi que je dise, quoi que je fasse, j'ai un contrat. Donc je suis un entraîneur très très heureux et je suis un homme très heureux. Donc Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Mais par contre, je sais qu'à la fin de la saison, il faudra rencontrer le président pour discuter. Je suis bien à Nantes et très très bien à Nantes. Et puis surtout, j'ai envie donc de continuer de poursuivre l'aventure.
J'ai envie de continuer de poursuivre l'aventure. Il y a des disputes avec le président, mais j'ai pas pris de décision. Mais je sais où je vais. C'est un peu Marc de la Flamme. Hein, vous voyez, j'ai ma décision, mais je vais pas vous la donner. Alors, on en est où là-dessus?
Il dit comme un peu son contraire et tout. Son
c'est
contraire.
Pour ça.
Oui,
c'est
mais
Marc
même, même entre là, dans la même interview et un petit peu avant, puisque pendant un moment, il disait on sait bien, les contrats, ça vaut rien. Et puis tout de suite, là, il s'en sert presque comme d'un bouclier de son contrat. Oui, mais de toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, j'ai un contrat.
Et il conclut en disant qu'il veut rester. Alors, il y a deux niveaux de lecture. Le premier, c'est tout simplement une rupture à venir. Et donc, contractuellement, il ne se met pas à la faute pour une négociation de départ. Il ne faut pas dire j'ai envie de partir, etc. Parce qu'ensuite, les avocats s'en saisiront. Et la deuxième, c'est de se dire, il met un coup de pression, il a vraiment envie de rester, comme il le dit dans sa conclusion à l'instant, mais il met un coup de pression en disant, par contre, le président, on s'est disputé, ce qu'il leur dit encore une fois, enfin, il n'est pas obligé.
C'est un discours qu'il répète depuis la finale de Coupe de France. Eh oui. La seule phrase nouvelle, c'est j'ai envie de poursuivre, mais sinon tout le reste, il a dit, j'ai envie de poursuivre, mais ma décision n'est pas prise. En fait, ce qu'il est en train de dire depuis 15 jours, c'est pour ça que ça peut être très compliqué quand même qu'ils poursuivent, c'est qu'il demande à Valdemar Quitta de lui laisser les pleins pouvoirs. Voilà. Mmh. Et parce qu'il sait aussi que c'est quand même la saison de tous les dangers pour lui, d'une part. D'ailleurs, il l'a dit aussi, on aurait pu me donner cet extrait-là, où il dit ce sont les mêmes qui m'encensent aujourd'hui qui sont capables de me dégager dans 3 mois.
À propos des supporters.
Oui, mais enfin,
c'est excessif, ça. Oui, dire les mêmes qui diront dégager, c'est pas exactement les mêmes.
Oui, d'accord, mais je parle pas des supporters.
Il parle des supporters quand
il
dit ça.
Mais moi, je parle oui, mais il sait très bien aussi que la direction, elle le lâchera à la première occasion venue.
Si ça se met mal à l'automne.
De toute façon,
oui,
il a
si ça se met
perdre,
mal à l'automne, mais il y a un enchaînement. Voilà, exactement, il a tout à perdre. Là, il est au plus haut. Donc franchement, je comprends qu'il puisse être en droit de demander des garanties et de conditionner, alors, en tous les cas, son maintien à des garanties et à des si pas des pleins pouvoirs, en tous les cas, des pouvoirs élargis. Est-ce que c'est lui qui décide?
Mais il les a déjà. On va alors justement. On parle de quoi? Justement, on parle de quoi? Il les a déjà dans le fonctionnement à la Genelière, dans le choix des joueurs qu'il met sur le terrain, dans le choix des joueurs qu'il met à l'écart.
Heureusement encore qu'il choisit les.
C'est arrivé que ce soit plus compliqué que ça à la Genelière, Jean-Marcel. Ouais, non, mais donc il les a déjà du point de vue sportif à la Genelière. Donc de quoi tu parles quand tu dis
pleins pouvoirs? Enfin, clairement, c'est le mercato.
Le choix des joueurs dans le cadre des transferts.
Sachant que là, ça va être.
C'est ça qu'il nous dit dans ce message.
Et on sait très bien qu'il a eu une alerte qui a été très conflictuelle en janvier. Il sait aussi quand même, je crois que vous l'avez abordé la semaine dernière, mais que s'il gagne pas Lens, c'est pas sûr qu'il poursuive la saison.
Au mois de décembre.
Et au mois de décembre dernier, puisque
c'est tendu.
C'est très tendu, et certains se posent la question, en tous les cas, à la direction, s'ils doivent pas commencer à choisir un plan
B. Il le sait.
Il le sait, alors qu'il sortait quand même d'une saison où il maintient le club et où il n'y avait pas péri dans la demeure. Donc,
ça veut dire qu'il va demander un contrat blindé, une prolongation?
Mais c'est pas qu'une question de contrat, je pense, pour lui, pour le protéger. Je pense que c'est des moyens qui soient à la hauteur. Enfin, je sais pas si, je suis pas sûr que le club aujourd'hui, il est structuré pour faire face à une Ligue Europa.
Il faut pas oublier que les deux derniers mercato, Nantes a un peu bougé finalement. Mm. Alors, parce que Antoine Comboiré a fait en sorte que. Mais l'été dernier, il y a eu.
Il s'est délesté des poids morts.
Voilà. Oui, mais il y a eu finalement peu de mouvements. Les cadres qui étaient sollicités l'été dernier, on les connaît, les Blas, Colomani, Simon, Lafont,
en fait.
Voilà, sont restés. T'as Cyprien, qui est arrivé, Boukari qui est arrivé. Globalement, c'est à peu près tout. Cet hiver, ça n'a pas bougé. T'as Aymon qui est parti. Mais là, l'été prochain. Là, tu sais que tu pars sur un chantier
complexe.
Et plus que des cadres, ce sont des joueurs clés en fait,
des joueurs
postes clés. C'est ça le problème.
Ouais, des joueurs qui font la décision. La même équipe avec 3-4 de ces joueurs en moins ne fait pas les mêmes résultats.
Tu vois quand Chirivella est pas sur le terrain, tu vois la différence déjà.
C'est vrai que ça fait une différence.
Et t'enlèves Colomani demain ou Blas demain, c'est pas la même chose.
Chirivella reste.
La question suivante, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour Valdemar Quitta qui il a pris du recul, il nous l'a dit, il est beaucoup sur ses affaires, en voyage en permanence à l'étranger, etc. C'est ce qu'il a dit récemment. Je le crois volontiers, mais est-ce que c'est possible pour vous que Antoine Comboiré ait vraiment la main sur le choix, le recrutement?
Il n'arrête pas de le dire, Valdemar Quitta. Il a fait ses deux interviews, il dit « Moi, ça, je souffre, moi je suis quelqu'un d'humain, j'aime le contact ». J'aime être présent, moi j'aime pas parler au téléphone.
Donc
je
il va reprendre la main sur ce qu'il préfère.
Ça fait un an qu'il ronge son frein parce qu'il avait pas son mot à dire, parce que c'est lui qui a choisi Raymond Domenech, parce que c'est lui qui a failli emmener le FC Nantes dans le mur, parce que derrière
son fils
a imposé Antoine Comboiré, derrière il y a eu du succès, et voilà, il est obligé de se taire, et Valdemar Quitta est obligé de se taire, c'est terrible pour lui.
Et donc, il va forcément reprendre la main et Comboiré ne pas obtenir ce qu'il est en train de nous dire.
Je sais pas, je suis pas Madame Irma et David Filippo.
On n'est pas Madame Irma.
Mais en tous les cas, ça va être très compliqué.
Ne croyez ni l'un ni l'autre.
Non, mais ça va être. On sait, en tous les cas.
En tout cas, il serait contre nature, mais là, il l'a déjà été pendant un long moment.
Ouais.
Et là, pendant l'été, on sait que ça va être encore plus compliqué parce que, de toute façon, lui-même va être sollicité par des gens extérieurs au club qui vont lui proposer des solutions. Donc, ils vont entendre dire que le FC Nantes cherche un attaquant, que peut-être la piste préférentielle du coach va peut-être pas fonctionner si c'est toujours le même coach. Donc, il va se voir proposer, il va naturellement revenir dans le game, le président Kita.
Quel est l'intérêt de Valdemar Kita d'être propriétaire à distance de ce club s'il peut pas s'amuser un peu?
Il a fait un club qui gagne la Coupe de France.
Voilà. Et donc, ça reluit quand même un petit peu, c'est indirectement. Les 15 années de présidence qu'il a, quoi.
Vous êtes tous les deux sur la même ligne que Jean-Marcel, ça paraît donc peu probable.
Bah moi, tu sais que je suis d'accord avec Jean-Marcel.
Comboiré sait très bien comment ça va se passer, il sait très bien comment fonctionnera un mercato avec Valdemar Kita, il n'aura pas les pleins pouvoirs.
Il se dit même, alors après là c'est vraiment mais voilà, un bruit de couloir, mais il se dit même que de toute façon, même la phrase et la volonté publique de Valdemar Kita de laisser un peu la main en président, ça a été interprété par Comboiré.
Alors, je n'ai pas compris. Valdemar Kita, c'est le président.
Oui, mais qui a dit qu'il laisserait la main à son fils.
Tant que président.
Pardon.
Okay.
Eh bien, il dit même que ça a été un peu interprété comme étant, bon, bah, comme ça, peut-être que ça va lui permettre de rester et on verra après, quoi. Donc,
c'est déjà un petit peu le cas ces derniers mois. Il a quand même pris beaucoup de recul pour les raisons expliquées tout à l'heure par Jean-Marcel.
Oui, mais là, en officialisant un peu le truc, il peut peut-être se donner une chance de plus de garder son entraîneur.
Pour rester sur Comboiré et conclure là-dessus, on a donné à peu près les enjeux de ces prochaines semaines. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est tout simplement qu'on lui propose mieux ailleurs, ou plus intéressant, ou un nouveau challenge. Alors il y a eu ces dernières heures l'évocation de la sélection de Côte d'Ivoire, qui se serait intéressée à lui. Il aurait dit non, nous dit Fabrice Hawkins, un confrère, à cette sélection de Côte d'Ivoire. Mais il est bankable maintenant, Comboiré. Est-ce qu'il peut être tenté aussi par...
On a parlé de Lille aussi, l'équipe a évoqué Lille cette semaine.
Bah, il c'est peut sûr être tenté par un autre pari.
Bah c'est sûr que quand tu vois sa saison et où il a pris Nantes et où est le FC Nantes aujourd'hui, forcément il est bankable. Il fait partie des 5 nominés quand même au trophée UNFP en tant que meilleur entraîneur. Forcément sa cote est remontée et au mercato tu auras sûrement des changements d'entraîneur dans certains clubs et il peut être sollicité effectivement.
Et puis le message qu'il envoie le soir de la victoire c'est je peux être disponible.
Clairement.
Mais après moi j'ai pas le sentiment que ce soit... son avenir et en tout cas une solution, une porte de sortie soit conditionnée au fait qu'il reste ou pas. Parce qu'il y a aussi quelque chose que, comme Comboiré, c'est quand même un homme de parole, quelqu'un qui croit en ce qu'il dit et qui fait en général ce qu'il dit. Et il y a peut-être aussi un sentiment un peu particulier chez lui, c'est que par rapport à des potes à lui, des anciens du FC Nantes, qui sont un peu en opposition avec Kita, il a aussi peut-être ce côté un peu ambivalent de se dire est-ce que je suis vraiment à ma place en fait. J'ai des potes qui ont bossé ou qui ne veulent pas bosser avec Kita, qui ne veulent plus entendre parler de lui et moi je suis là toujours. Et je pense que ce qu'il a pu leur dire.
Il a gagné.
Il le savait en y allant.
Il venait pour Nantes, pas pour Kita.
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que dans sa réflexion, ça peut entrer en jeu.
Après, il l'a dit quand on l'interrogeait justement sur sa nomination au trophée UNFP. Il a dit, voilà, moi, dans ma carrière, je n'ai jamais été carriériste. J'ai suivi des clubs pour le cœur et pour des gens.
C'est pas linéaire, d'ailleurs, son parcours. Hein. Parfois, sur des coups de tête, il est parti.
Pour les gens, voilà.
Ouais. Et comme tu dis, c'est pas linéaire. Ça a souvent marché, d'ailleurs, sur pas des coups de poker, mais sur des relations humaines qu'il a su tisser.
Des vrais coups de cœur.
Exactement. Ouais. Donc là, ici, le coup de cœur, c'était pas forcément Valdemar Kita, puisque la fois où il avait voulu l'approcher, ça s'était très, très mal passé. Le coup de cœur, c'était le FC Nantes et de le sauver par rapport à son histoire personnelle. Aujourd'hui, il est arrivé, je pense, au bout du bout. Il a dit aussi d'ailleurs qu'il s'était fixé, sans nous le dire, un âge limite dans lequel il voudrait plus entraîner. C'est quelqu'un qui est relativement libre en tous
Certains
les cas.
Certains ont même évoqué une retraite et qu'il arrête de coacher après Nantes.
Je le vois bien quand même peut-être faire un dernier défi, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est...
Ah, il l'a dit aussi hein, quand même, qu'il voulait continuer un peu.
Ouais, c'est quelqu'un qui est relativement libre et je pense qu'il n'a pas envie de rester pour rester.
Est-ce qu'il méritait plus que le Rennais Bruno Genesio, le trophée UNFP de meilleur entraîneur, sachant que moi j'ai suivi Stade Rennais aussi cette saison et que Rennes a offert du spectacle comme jamais.
D'ailleurs, tu supportes le Stade Rennais aussi. T'as le maillot encore aujourd'hui.
Je t'en prie. C'était régalade.
Non, il a le maillot vert en fait.
Ils ont marqué 80 buts et pour le spectacle, oui. Après, c'est un trophée qui est décerné avant la fin du championnat. Bah Rennes oui. peut se retrouver bouté hors de la Coupe d'Europe avec le meilleur entraîneur alors que Combo.
Oui, mais tu le sais toi, Simon, que ce ne sont bon, juge pas que sur les résultats.
Bien sûr.
Voilà. Non, mais bon,
sinon Bamba Dieng n'aurait pas eu le plus beau but de la saison, hein. Ça c'est la communauté
marseillaise qui a voté. Le plus beau but, c'est le plus beau but, ça c'est pas
bah c'est si, le plus beau but, si les supporters votent pas en fonction du but.
Tu penses qu'il va encore avoir un plus beau but que celui de Bamba Dieng?
Bah, je pense qu'il y a des plus beaux buts, je pense que Savanier c'est un plus beau but.
Paqueta collectivement son but est magnifique.
Le truc c'est que voilà, les Marseillais sont plus nombreux à voter sur ce but là. Genesio, ok.
Genesio a voté pour
Combouré. Oui, il l'a dit, c'est vrai. Et Donnarumma a voté pour Lafond, mais on en parlera tout à l'heure, c'est pareil. Désolé les gars, on a voté pour vous. Rentrer bien à Nantes.
Non, mais moi,
c'est mérité. Comboiré a mérité ou pas le titre?
Non, mais c'est pas déconnant pour Genesio.
C'est pas déconnant, mais comme tu dis, c'est quand même. C'est pas déconnant parce qu'il y a la qualité de jeu proposée par Rennes. Mais c'est quand même. Si Rennes termine 6e ou 7e, c'est. Bah voilà, il a fait une belle saison, mais il n'a rien gagné à l'arrivée.
Ça, le verdict, ce sera à l'issue de la 38e journée. On va fermer cette grande parenthèse Comboiré, mais c'était important et je pense que ça vous intéressait aussi tous qui avaient encouragé ces Canaries.
Moi, j'aurais voté Comboiré.
T'aurais voté Comboiré.
Ouais. Ouais. Parce que vu tout ce qu'il a dû aménager, composer dans une équipe qui a été quand même souvent bouleversée, Rennes aussi, hein, mais voilà, et gagner à l'arrivée dans le contexte qu'on connaît, je pense que c'est la marque d'un grand entraîneur.
Bah, la progression est dingue.
Ouais.
La progression sur une saison.
Comboiré était sur le banc il y a moins d'une semaine, hein, puisque depuis le dernier podcast, il y a eu ce derby incroyable qui a fait perdre beaucoup d'argent à ceux qui s'amusent sur les paris sportifs en mode les Nantais, ils sont cuits, laissez tomber. Ils ont
quand
chance,
on voyait
ils ont
le 11 de départ, en plus,
ceux qui ont misé sur Nantes ont beaucoup gagné. Ouais, et ceux qui ont misé sur le but de Nicolas Palois, la cote était énorme.
Ouais, bah cette maison à la campagne que tu vas acheter d'ailleurs. Tu
parce que lui, entre le fan club et puis ses paris sportifs, c'est bon. Ouais. Ouais. C'est pas la campagne, apparemment, c'est plutôt sud de la France. Apparemment, il a un petit bateau là qui mouille à côté sud.
Moi, je croyais que c'était un chalet en bois.
Ouais. Messieurs, on a vécu une saison vraiment super chouette avec ce FC Nantes là, des émotions, des renversements qui s'est conclu par cette finale de Coupe de France incroyable. Mais ce match, il dit quoi de plus? Est-ce qu'il dit pas que cette équipe, elle a un supplément d'âme? Parce qu'on l'attend plus finalement, on sait qu'ils sont cuits Rennes. Et ils vont chercher dans ce derby une victoire face à des Rennais qui sont en pleine course à la Ligue des Champions. Enfin, ce derby, il dit quelque chose de cette équipe qu'on n'a pas envie de voir se briser.
J'associe Rennes et Lyon, hein, parce que même s'ils perdent à Lyon, aller ne pas prendre une volée comme ils ont évité de la prendre à Lyon, c'était quand même aussi fallait avoir le mental et le supplément d'âme dont tu parles, hein, Simon.
Et sur Rennes, ce qui est intéressant, c'est qu'on était tous à la Beaujoire. Quand tu vois la compo des équipes à une heure du coup d'envoi, tu te dis waouh, Combori, il avait fait 6 changements, je crois. Il avait mis l'équipe B, voire un peu plus, ouais, B prime, je sais pas comment le dire, ou D prime. Et franchement, T'as noté quand même.
Ouais. Tu trouvais déprimant cette compo, t'as donné tort finalement.
Non, mais en fait, et du coup, moi je trouve que ce qui est super, c'est que tu vois un groupe au final. Parce que ceux qui étaient en difficulté en plus sur la pelouse, c'était, j'ai trouvé en début de match,
Moutoussamy,
qui étaient les finalistes. Et en fait, les autres se sont mis au niveau. Boukari, j'ai trouvé bon. Koulibaly, Julien a sauté
décisif.
Dans la tribune.
Décisif. Il est tombé d'un étage d'ailleurs.
Son but est incroyable. voilà. Et puis derrière, t'as l'emballement. Et voilà, je vais pas reparler, mais c'est 20 dernières minutes.
Supplément d'âme, Jean-Marcel. Pour toi aussi.
Et puis surtout, les mecs au coup de sifflet final qui sautent tous ensemble, qui continuent de danser sur la pelouse avec tout le public.
Ils ont pas envie que cette saison se termine. Franchement.
Ouais, je trouve que. Et puis c'est une équipe qui a conscience des enjeux d'ailleurs, parce qu'elle s'est rarement ratée dans ses grands rendez-vous à partir de la défaite contre Marseille en décembre, d'ailleurs, où Ludovic Blas l'avait ciblé. Il y a eu beaucoup d'amertume après ce match-là, sur lequel ils n'avaient pas pu défendre réellement leur chance. Et depuis, sur les tournants, ils ont plutôt bien réussi ce qu'on appelle les matchs de gala. Je me rappelle, pour avoir vu Blas en entretien avant la Coupe de France, pour lui, les vacances, il devait y en avoir, c'était après le match contre le Stade Rennais. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient conscience, en tous les cas, que c'était important. Et puis, je me rappelle aussi des déclarations de Nicolas Palois après match, on en reparlera tout à l'heure, mais où à plusieurs fois, je crois que j'ai compté à 4 reprises, il a dit que c'était un match important pour les supporters. Sous-entendu, même si nous, c'est bon, on a fait notre saison, on a fait plus que ce qu'on attendait de nous, il y a une volonté en tous les cas de rendre et de prendre du plaisir et d'en partager là-dessus.
Je pense que la finale de la Coupe de France, ça les a tous bluffés quand même. les mecs, je pense que vraiment, ils ont
ils font
été
communauté avec parce que ce public incroyable.
Bah ouais, parce qu'ils ne s'imaginaient pas être soutenus comme ça par 50 000 personnes au stade et la force, de, la puissance du supporterisme, en fait. Et là,
mais pas que, parce qu'ils nous racontent ensuite que sur les réseaux sociaux, quand ils arrivent en mairie, ils voient les vidéos de Nantes en même temps que ce qu'eux, ils ont vu au Stade de France. Mais ils disent, ils sont combien de dizaines de milliers, en fait, derrière nous.
Voilà, y a, là, je pense que ça les a encore plus aidés. Alors, il y en avait déjà, parce qu'on se souvient aussi de la petite phrase de Blas qui voulait absolument jouer Rennes après l'OM. Quand il prend son carton là, après l'OM on se doute que là ils ont quand même eu ce supplément d'âme aussi parce qu'ils ont créé une histoire avec cette équipe.
Mais c'est vrai qu'ils l'ont eu toute la saison, cette équipe. Pourquoi elle est sympa à suivre, c'est qu'on en a parlé de ces matchs. Mais Lens, t'es mené 2-0, tu gagnes 3-2, t'as le match du PSG.
Du PSG,
tu mènes 3-0 à la mi-temps en emballant
Monaco, tu reviens
Monaco, incroyable. Bordeaux, c'est fou. Même quand tu gagnes pas, Lens, on était à Lens, tu mènes 2-0, t'as 2-2, tu pourrais te dire que c'est un mauvais résultat. Mais le match était hyper emballant. Tu vas, Rennes, t'es mené 1-0 contre cette équipe de Rennes-là en étant cramoisi. Tu gagnes 2-1, tu renverses le match. Et comme dit Julien,
même à Lyon,
ce week-end, les gars, ils sont menés 2-0, ils sont menés 3-1 et ils reviennent à chaque fois, ils lâchent pas. Alors que
ils ont même des balles de 3-3, parce que finalement, si Jubels marque son raté, là, il trouve même pas le cadre. Bah, du coup, ça fait 3-2 et Cyprien, bon, voilà.
Et t'as des occasions en plus.
Je vais être ultra gourmand, les gars. J'avais dit à Lens que bon, c'est dommage de lâcher ces deux points parce que tu rajoutes ces deux points et les trois points de Lyon et Nantes est dans la course aussi. Bon, c'est évidemment.
Je pense que tu joues pas la Coupe de France.
Tu peux pas tout gagner. Non,
mais tu joues pas la Coupe de France, tu peux peut-être être européen quand même via
peut-être,
le championnat.
Peut-être par le championnat. Le dernier match. Mais on avance.
Même le match, tu parlais, on met le point de départ sur Lens, le 0-2, 3-2. Mais moi, je pense que même le match de l'OM, que tu perds 1-0
bien
chez
sûr.
Toi, où tu te retrouves à 10 à la 33e, la deuxième période, t'es loin d'être ridicule. Hein. Les mecs, ils mettent ce qu'il faut pour essayer de récupérer un point quand même. Donc,
sauf que pour
ils y sont, quoi.
Là, pour une des premières fois, quand même, t'arrives à renverser une situation sur le match de Lens.
Oui, bien sûr.
Surtout comparé à la saison dernière, où on se souvient quand même des scénarios, tu prends pas comme Bordeaux cette année des pilules à chaque match, tu perds à chaque fois, soit tu mènes au score, tu te fais égaliser, ou alors t'es mené, t'arrives pas à revenir, et cette équipe-là arrivait jamais à renverser en sa faveur les scénarios des matchs, et cette saison ils l'ont fait plein de fois.
Elle sait qu'elle peut le faire et ça donne évidemment un caractère, une force de caractère supplémentaire. On passe à ce match de Saint-Etienne, la dernière de la saison. Tout ce qu'on vient de dire, c'est pas de bon augure pour les Stéphanois, parce que même en tongs et même en vacances virtuellement, les Nantais sont allés faire un bon match à Lyon. Saint-Etienne va jouer sa survie, objectif barrage pour les Verts. Metz, qui compte le même nombre de points que Saint-Etienne, mais une différence de but plus favorable, sera au Parc des Princes. Donc Saint-Etienne doit faire mieux que Metz. Si Metz perd, Saint-Etienne doit faire nul. Si Metz fait nul au Parc, Saint-Etienne doit gagner face au Football Club de Nantes. Franchement, ce rôle d'arbitre, ils vont le jouer à fond. On ne peut pas imaginer une seule seconde avec sans doute les derniers matchs de Randal Kolo Muani et d'autres joueurs que
la présentation du trophée, la fête à la Beaujoire.
C'est le pire scénario pour Saint-Etienne.
Quand Boiret l'a ciblé, puisqu'il dit je me suis passé de Nicolas Palois et de Samuel Moutoussamy. Alors peut-être la fatigue, mais aussi parce qu'ils étaient sous la menace d'un troisième carton jaune à Lyon.
Et ils ne voulaient pas faire la fête contre Rennes parce qu'il disait on doit d'abord finir la saison. Il y a le match contre Saint-Etienne, on fera la fête après Saint-Etienne. Voilà,
et puis là, il a redit,
c'est pas le genre à dire on va partir en vacances avant la fin.
On doit gagner pour finir sur une bonne note. Donc
s'il y a des supporters des Verts qui écoutent ce podcast pour savoir comment ça se passe à Nantes avant le match, ils sont déprimés, les gars.
Il faudra que les Verts fassent un très grand match.
Si on ajoute ça, la petite opposition Camboire et Duprat,
c'est ce que j'allais dire. Voilà, ils sont pas très copains.
Ça fait beaucoup de choses qui sont en défaveur des Verts.
Et le niveau des Verts, parce que c'est quand même la
niveau catastrophique de cette équipe qui, pour le coup, connaît des renversements, mais à l'envers depuis des semaines. Ils sont battus à chaque fois.
Comme Boiret l'a dit en conf à Lyon, on s'est sorti tout seul de la merde l'année dernière, sous-entendu, on fera pas de cadeau.
On n'a pas eu l'aide de qui que ce soit pour s'en sortir. Voilà. Et puis les Messins, forcément, et toutes les autres équipes vont regarder ce qui se passe aussi à la Beaujoire. Le dernier match pour certains joueurs, c'est la fin de cette grande séquence, mais on avait beaucoup de choses à dire. On cherchera des signes pendant après-match, des adieux à la Beaujoire potentiellement pour Blas, pour Lafont, pour Simon. On en est où, selon vous, sur tous ces joueurs-là? Qui vous voyez partant à coup sûr parmi ces noms que j'ai cités? Blas, Simon, Lalban Lafont. Blas Lafont pour toi.
Blas, il y a déjà des. On entend déjà parler de Lyon. Forcément, après une saison comme ça, il va être sollicité. C'est évident.
Blas et Lafont, la saison prochaine à Nantes.
Je pense, ouais.
Ouais, Colomagne aussi, on évidemment. Le sait.
Par contre, je pense que Simon peut rester.
Moses Simon, c'est un des joueurs dont on parle le moins, et vous allez le voir ensuite dans les votes. D'ailleurs, il apparaît un peu en retrait, alors qu'il finit à 8 passes décisives. Il a quand même eu la canne entre les deux, et des moments de moins bien dans cette saison, mais il a été aussi très influent sur son côté, dans sa capacité à percuter. Hein,
mais... Et à marquer, ouais, mais en fait, c'est parce
qu'il attire
que...
peut-être un peu moins que les autres.
Ouais, bah, déjà, il y a une logique simple, hein, c'est que même si on le voit un petit peu moins aujourd'hui, mais... Alban Lafont et Ludovic Blas sont quand même des hommes médiatiques du FC Nantes. On les voit dans les médias, ils répondent aux questions. Simon, il est rarement sollicité, sans doute par la barrière de la langue, mais aussi parce que c'est vrai qu'on a moins demandé de sujets avec lui. Donc il y a aussi cette petite affinité que le public n'a pas avec le joueur de la même manière qu'il peut l'avoir avec Alban Lafont.
Les clubs ne devraient pas miser là-dessus.
Non, bien sûr, mais je veux dire déjà, pourquoi, par exemple, toi, dans le sondage, il est peut-être un peu en
retrait.
Dans
le sondage, on va y venir. Ouais.
On parle peut-être un petit peu moins de lui. Mm. Et après, je pense que c'est aussi parce que de ce qui se dit, il n'a pas, enfin en tout cas, on croit savoir qu'il n'a pas fermé la porte à une vraie possibilité de rester. Alors les autres non plus, mais ils n'en ont pas parlé.
Enfin, si on prend l'exemple de Lafont, il en a besoin d'un tremplin. Enfin, il a deux. Voilà.
Les deux ont besoin d'un tremplin européen pour vivre de nouvelles aventures à un plus haut niveau. Hein.
Lesquels? Les deux.
Lafont et Alban. Ouais.
Non, je croyais que tu disais que Lafont, dans les deux.
Non, je parlais des deux. C'est par opposition à Moses Simon.
Se mettre à leur place, notamment celle de Ludovic Blas. Quand tu fais une saison comme ça, t'as forcément, tu vises au-dessus.
Au-dessus, c'est la Ligue des Champions, puisque Nantes va jouer la Ligue Europa.
Mais potentiellement.
Tu peux jouer la Ligue Europa avec un club qui prétend avoir des ambitions sur cette Ligue Europa. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que Nantes a de réelles ambitions en Ligue Europa.
On essaiera de faire le point à l'issue de ce match face à Saint-Etienne en interrogeant les uns et les autres et en regardant leurs attitudes. Un mot, Pab, maintenant sur les joueurs prêtés ou les joueurs de passage. Est-ce que l'un d'entre eux peut rester selon vous ou les fins de contrat? Cyprien, Jeubels, Boukari, Koulibaly par exemple. Alors Koulibaly, on dit peut-être.
Non, mais ça dépendra aussi déjà si Antoine. Là, pour tous les dossiers, là, pour moi, c'est précipité d'en parler, puisque ça dépendra si Antoine Camboire est là ou pas, à la reprise. Puisque je pense qu'il a déjà. Évidemment, quand Antoine Camboire dit qu'il a réussi à obtenir des prolongations de tous ses joueurs cadres, on pense à Pedro Chirivella, à Nicolas Palois, à Jean-Charles Castelletto. Quentin Merlin, c'est aussi des joueurs sur lesquels il n'y avait pas débat et dont la direction avait intérêt aussi, pour des questions financières, à les prolonger. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué.
Après, Camboire, il a dit cette semaine que Boukari, il l'aimait beaucoup.
Et puis, il a aussi dit, il a aussi dédramatisé le départ de certains cadres en disant il y a des fois, c'est comme ça, c'est le foot, il faut partir. On trouvera peut-être différent, pas mieux ou différent, mais on fera avec. Et puis, ça peut régénérer un groupe, redonner de l'élan à un groupe. Donc, oui, dans sa tête, il est prêt à assumer ça, je pense. Alors peut-être parce qu'il se dit que ce ne sera pas lui qui aura à l'assumer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est prêt à assumer ça si ça devait arriver et à chercher des joueurs qui pourront apporter quelque chose d'important dans le jeu nantais.
Je vous rappelle aussi, c'est aussi l'année notamment où on en a beaucoup débattu cette année sur les autres coéquipiers de Quentin Merlin de la génération 2002. C'est normalement l'année de leur éclosion et leur intégration au groupe pro. Donc évidemment, si on construit un effectif de 30 joueurs, ça risque de fermer des portes, de faire quelques déçus.
Et ça dépendra aussi d'Antoine Camboire, s'il reste ou pas. Parce qu'il n'a pas ouvert particulièrement la porte aux jeunes cette année.
Parce qu'il avait son groupe, mais on peut imaginer que si demain des Roli Pereira ne restent pas, normalement,
ça libère des places.
En tous les cas, ça doit libérer des places dans cet effectif-là pour que ces joueurs-là aient un autre rôle que celui qu'ils ont eu cette année de sparring partner pendant les séances d'entraînement.
On essaiera de grappiller des petites infos sur tous ces sujets-là dans notre émission de la semaine prochaine, qui sera la dernière. On fera le bilan et on se projetera sur ce mercato, évidemment.
Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Julien Soyer, Ouest France. Simon Rongoat, It West. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Randal Kolo Muani est-il le meilleur joueur du FC Nantes cette saison, les copains? On va s'amuser à donner notre avis là-dessus. On vous a posé la question également par sondage. Peut-il même rêver d'équipe de France?
Le titre est dans le titre de la chanson. Le groupe est dans le titre de la
c'est
chanson.
C'est ça.
Pab adore aussi.
Je suis en train de danser.
Allez, Pab. À la flûte. Non, au clavier.
Allez, tapez dans les mains, les gars. Ouais.
Il est le partenaire rêvé, particulier donc, capable de dribbler, de faire des différences, de marquer. Il aime aussi faire marquer, il comprend le jeu, c'est un bon camarade de vestiaire. Bref, n'en jetez plus, RKM, c'est de l'or. Mais est-il le meilleur joueur du FCN sur l'ensemble de la saison? Alors sur Twitter, on vous a posé la question, le résultat du sondage est sans appel. Même si vous nous le dites, vous avez franchement aimé beaucoup de joueurs cette saison. Valbé nous dit d'ailleurs, le meilleur joueur de la saison, il n'existe pas, c'est le pied droit d'un tel, le pied gauche de l'autre, la tête de l'un, l'intelligence de jeu de celui-ci et la détermination de celui-là. Je trouve que c'est un très bon résumé de la saison nantaise et c'est vrai qu'on a envie de voter un peu pour tous ces joueurs qui ont donné du plaisir au foot nantais. Colomwani, donc largement devant quand même dans les votes, il a remporté plusieurs centaines de suffrages. Vous êtes sur deux tweets, c'est pour ça que c'est difficile de le totaliser, plus de 2000 votants. Colomwani largement devant, ensuite vient Pedro Chirivella, puis Nicolas Palois, Alban Lafont en quatrième position, Ludovic Blas, Quentin Merlin, Moses Simon et André Girotto qui ferment la marche. On va dire un petit mot sur chacun. Randal Colomwani d'abord, 12 buts, aucun pénalty, c'est important, aucun pénalty sur les 12 buts en Ligue 1, 4 passes décisives. Le script jardinier nous dit, RKM a fait une belle saison en étant un buteur prolifique, un poison quasi constant pour toutes les défenses adverses, avec un état d'esprit irréprochable. C'est un bon résumé, non? Colomwani était énorme. C'est le meilleur pour vous aussi, on est tous sur la même ligne?
Je sais pas, moi en tous les cas...
J'aurais voté qui ou tu as voté qui?
Alors déjà, moi j'ai adoré les réponses des auditeurs sur le podcast.
C'est un collectif, etc.
Mais oui, je trouve que c'est très... Dans la philosophie nantaise, déjà c'est assez révélateur de la philosophie nantaise. Et si on dit ça, ça veut dire que quelque part, c'est peut-être aussi la victoire du coach cette saison-ci, plus qu'un joueur, parce que je trouve...
Mais les deux premiers du sondage, Jean-Marcel, c'est Chirivella et Colomwani, deux joueurs qui jouent pour les autres.
Oui, et parce qu'ils ont tous eu des moments de creux, en tous les cas, cette saison. Moi, j'hésiterais beaucoup entre Randal Colomwani et Nicolas Palois, mais comme Pab parlera de Nicolas Palois, je voterai Randal.
Tu vois, moi je parlerai pas de Nicolas Palois. Évidemment, j'ai voté pour Nicolas Palois.
Non, il est hors concours pour toi.
Parce qu'il est hors concours et parce que c'est celui qui enflamme le public dès qu'il franchit la ligne médiane, t'as le stade qui vibre. Donc ça, c'est une chose. Moi, évidemment, je souscris encore une fois à ce que tu as dit. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'absence, quand on voit quand Chirivella n'est pas là, que le FC Nantes tourne moins bien.
La pauvreté du jeu au milieu de terrain.
Moi, je décernerais peut-être. S'il fallait décerner un prix, peut-être à Ludovic Blas. Moi, je l'ai trouvé énorme. Je trouvais que c'était celui qu'il fallait absolument garder l'été dernier. Si j'avais dû en garder un parmi tous, ça aurait été celui-là. Et je trouve que dans tout ce qu'il apporte... Alors, bien sûr, il y a des moments où il est un petit peu moins bien. À Lyon, le week-end dernier, il était un petit peu moins bien. Mais alors, ce gars-là, qu'il t'apporte...
Bon, moi, je l'ai trouvé bon dans l'orientation du jeu.
Alors, Blas, on a posé la question... s'arrête dessus, 9 buts cette saison, seulement 2 passes décisives. En revanche, en Ligue 1, c'est pas beaucoup. Je pensais qu'il en avait mis plus que ça.
On a demandé à Antoine
Comboiré. Merlin, 3 passes décisives, par exemple.
Ouais, mais on a demandé à Antoine Comboiré après le match. Regarde le nombre d'avant-dernière passes de Ludovic Blas, par contre.
Tu les as?
Je ne sais pas, j'en ai 5 en mémoire, déjà.
Ah ouais, il est fort. Il en a 5 en mémoire.
J'en ai 5 en mémoire. Trois contre Bordeaux. Non, 3 contre Bordeaux. Et 2 contre Strasbourg en octobre.
C'est pour ça que cette stat est étonnante.
Je trouve que c'est l'assurance.
Mais parce que souvent, il essaie de finir.
Ouais. Mais parce que voilà, il est comme l'a dit Antoine Comboiré quand on lui a demandé parce que c'est vrai qu'il a raté quelques occasions ces dernières semaines qu'on était habitué à le voir réussir.
Il a mis le penalty de la finale.
Et puis il y a deux saisons dans la saison de Viglas, il y a avant la défense à 5 et après.
Où il est dans un poste qui n'est pas préférentiel pour
mais
lui. Dans,
oui, mais justement, moi je trouve que c'est pour ça que j'aurais voté pour lui.
Blas aussi.
Ouais, parce que.
Donc t'es d'accord avec moi? Tu peux peut-être quand même le dire.
Ouais, je suis d'accord avec Pab.
C'est la première fois en 3 ans quelqu'un d'accord avec.
Merci. Non, parce que tout à l'heure j'ai entendu Jean-Marcel aussi être d'accord avec lui.
Mais il ne le dit pas fort. Il n'a pas voulu le dire.
Moi je ne peux pas le dire.
Il a dit je suis d'accord avec toi, Simon. Il s'est trompé de prénom.
Mais parce qu'il a été capable en fait de faire évoluer son jeu. Il y en a beaucoup qui auraient dit ouais, moi, mince, un shit, je suis le meilleur buteur de l'année dernière. On me met dans un poste qui n'est pas le mien, où je brille un peu moins. Voilà, quand on parle de collectif et de sacrifice pour l'équipe, Ludovic Blas, il en est l'éclatante démonstration. Quoi. Il en est même l'emblème sur cette saison.
Dans la volonté. Dans la volonté
d'aller vers l'avant, d'orienter le jeu et de se réinventer presque, un petit peu. J'exagère un peu le mot, mais c'était un mot à la mode avec le Covid. Mais en tout cas, de faire évoluer sa palette pour pouvoir être toujours aussi influent alors que son rôle sur le terrain était différent.
Il y a beaucoup d'indispensables. Hein. On disait de Blas dans cette émission que c'était un baromètre pour le FC Nantes, mais on a vu que sans Chirivella, c'était compliqué aussi.
Mais parce
aussi.
Que ça rejoint le collectif.
Mais même, pas là devant,
mais même sans Nicolas Palois en défense centrale, enfin, je veux dire, il jouait pas l'autre jour à Lyon. C'est pas tout à fait la même défense. Mais non, mais c'est vrai, il est indispensable aussi sur plein de choses dans l'état d'esprit.
Personne vote Lafont, qui est peut-être celui qui a rapporté le plus de points dans cette saison nantaise, qui a eu son pic flamboyant avec le 10 contre dans l'équipe contre le Paris Saint-Germain et ses parades incroyables. Il a un petit coup de mou, il est moins rayonnant sur la fin de saison, c'est pour ça qu'il est un peu en retrait, qu'il est quatrième dans les votes.
Non, c'est un... Enfin, en fait, je pense que c'est...
Il perd peut-être le titre face à Donnarumma, qui a fait 17 pauvres matchs dans la saison et qui est sacré.
C'est le meilleur joueur
au trophée UNFP.
C'est parce que ce sont les joueurs de Ligue 1 qui
votent. Il
ne
voit pas les matchs, il a fait 17 matchs avec le PSG et en Ligue des Champions, il a craqué contre le Real.
Ils sont restés bloqués sur le...
Ce qu'on dit depuis le début, en fait, c'est que dans cette équipe-là, aujourd'hui, elle n'a fonctionné. Randal Kolo Muani et Ludovic Blas ou d'autres ont brillé parce que l'expression collective était au rendez-vous. Et chacun d'entre eux a pu fonctionner parce que le collectif autour a fait les efforts les uns pour les autres. C'est ce qui est revenu après Lyon tout le temps. C'est on lâche pas, on rechigne pas à faire les efforts les uns pour les autres. Donc c'est clairement la victoire d'un collectif. En fait, c'est la saison réussie d'un collectif.
On a pas cité les mêmes qui étaient à la ramasse l'année dernière en plus.
Ouais, certains d'entre eux. D'ailleurs, parmi eux, André Giroto, qu'on a toujours pas cité, qui est celui qui a recueilli le moins de suffrages dans ce sondage-là. C'est le meilleur couteau suisse de France, André Giroto. Il a marqué 6 buts, les gars, alors qu'il a joué la plupart du temps en défense. Une passe décisive, c'est la moitié du total de Blas. Je chambre un peu, mais Giroto, c'est 35 matchs sur 37 joués. Toujours bon, qualité d'anticipation incroyable. Et 6 buts d'Uni Bister Hood, qui a voté pour André Giroto.
C'est vrai. Il m'a bluffé sur Lyon parce que j'avais beaucoup associé les prestations de Giroto, la qualité des prestations de Giroto à la présence de Nicolas Palois. Et là, contre Lyon, il n'y était pas. Et franchement, en première période où il était défenseur central, il a tenu la défense tel Nicolas Palois le ferait.
Moses Simon, on en a parlé, peut-être un peu sous-côté avec ses 8 passes décisives, mais tu as expliqué pourquoi. Et puis, il n'y a pas de solution quand il était absent. On a vu que Jeubel, c'était très neutre quand il l'a remplacé sur ce poste-là.
Il n'est pas dans les votes, il n'a pas beaucoup de votes.
Il n'est pas proposé.
C'est poliment neutre le mot, non ?
Ouais, c'est poli. Quentin Merlin, c'est plutôt révélation de la saison. 3 passes décisives quand même. Avec cette question, est-ce que vous le préférez, et 2 buts, dans l'axe ou sur le côté ? Est-ce qu'il vous a finalement convaincu sur le côté ?
Moi, il m'a surtout déçu à Lyon dans l'axe. C'était pas facile pour lui.
C'était pas simple.
Parce que Nantes n'avait pas le ballon. Je pense que c'est un joueur qui peut bien s'exprimer. Sinon,
à Rennes aussi, en deuxième période, il est entré dans l'axe.
C'était plutôt intéressant. Mais à Lyon, c'est vrai que sa première période, c'était très difficile. Et finalement, deuxième mi-temps, t'as Kombouaré qui a décidé de remonter d'un cran Giroto pour le mettre au milieu. Il a remis Merlin à gauche.
Après, c'est un poste qui demande milieu de terrain. C'est aussi un poste qui demande beaucoup d'automatisme avec les joueurs qui sont autour de toi. Et le propulser là comme ça, sur une mi-temps et un match, peut-être la marche était un peu haute au regard de tous les automatismes qu'il faut, de la qualité aussi des adversaires. Parce que Rennes et Lyon, c'est quand même des milieux de terrain impressionnant. Hein.
Moi, je le préfère à terme, en tous les cas. J'ai la certitude qu'il réussira, qu'il sera très fort dans l'axe. Ouais. Je ne le jugerai pas sur ces deux prestations-là, d'autant plus que ce n'était peut-être pas la meilleure association qu'il avait avec Willian Cyprien. Il y a eu un vrai déficit d'impact à la récupération. Je crois qu'en première mi-temps,
Pedro, ça peut être pas mal.
Ils n'ont pas récupéré un seul ballon tous les deux. Donc voilà. En plus, il n'était pas guidé en termes d'équilibre, tout ça, pour quelqu'un qui retrouvait un poste. Puis face à Lyon qui a confisqué le ballon. Bref, les conditions étaient un peu compliquées. Le problème, c'est que on se rend compte en fait quand on le met dans l'axe qu'il est ultra indispensable à gauche.
C'est ça le problème aussi.
C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que sa qualité de passe et puis même la façon dont il peut, la façon dont il peut rentrer même parfois dans l'axe pour reprendre des ballons et pour faire des percées, enfin pour faire du jeu combiné et créer des décalages, il est juste indispensable aujourd'hui à gauche. Ce qui est la bonne nouvelle pour lui, c'est que aujourd'hui il peut jouer sur les deux postes, même s'il faudra qu'il se fixe sans doute à un poste.
À gauche, en fait, il a été meilleur dans la récupération du ballon en termes de repli défensif, y compris quand il revient dans le centre du jeu. Alors que quand il est dans l'axe, il s'est transpercer perdu, quasiment à chaque fois.
Ouais, alors ça c'est aussi, on va lui laisser du temps, c'est question de repère à retrouver.
C'est surtout pas un procès, c'est juste un constat.
On va laisser le temps là-dessus. On termine avec l'Asticoco qui nous dit, pour moi c'est Libombé, le meilleur de la saison, le plus beau geste de sa carrière à Nantes, c'est son départ, évidemment. Dit l'Asticoco. Cette question, Monsieur Boudard, c'est vous qui l'avez posée. Allons-y, l'équipe de France un jour pour Kolo Muani, c'est un fantasme ou bien c'est possible? C'est un fantasme actuel. Quand même, c'est ce qu'on se dit, il y a énormément de joueurs devant.
Le problème, c'est que c'est un fantasme, mais qui fait partie de la liste. Il est dans la présélection.
Dans la pré-convocation.
On sait qu'il y a 50 noms, on sait que On arrive en fin de saison, il y a 4 matchs au mois de juin qui risquent d'avoir des absents sur des états de forme ou des blessures. Donc effectivement, Didier Deschamps n'a pas pris de risque.
Est-ce qu'on peut l'imaginer s'installer un jour en équipe de France ?
Je crois qu'il y a Bourigeaud. Je crois qu'il y a Bourigeaud aussi et Terrier. Moi, je suis assez surpris déjà.
Terrier, c'est 21 buts par exemple cette
saison. Oui, mais c'est pas la même question de but. Enfin, ouais. C'est pas qu'une question de but. Tu l'as dit d'ailleurs dans ton intervention, Simon, en ouverture. Randal Kolo Muani, c'est autre chose que des buts. D'ailleurs, on peut lui reprocher. Il le dit lui-même qu'il a un vrai problème encore, qu'il n'est pas assez égoïste. Je pense qu'au Stade de France,
il n'est pas assez réaliste non plus, il a eu beaucoup d'occasions cette saison.
Il n'est pas assez égoïste, je crois que c'est le ballon qui met en retrait à Samuel Moutoussami.
Il en a fait une à Lyon aussi.
90% des attaquants, ils doivent la frapper
même,
à angle fermé. Ça, il n'arrive pas encore. C'est un attaquant qui est très altruiste. Il a le profil, effectivement, il y a énormément de monde devant. Alors,
il y a Dembélé, il y a Coman. Rien qu'en championnat de France, les buteurs qui sont devant lui sont tous français. Delors, 15 buts. Laborde, 15 buts.
Mais c'est pas qu'un buteur, je pense.
Non, mais je sais, mais Dembélé, 20 buts, il sait faire autre chose. Aussi Terrier, il sait faire autre chose.
Si tu prends un buteur, tu prends Olivier Giroud.
Ben Yedder, 24 buts, il sait faire autre chose. Ben Yedder.
Simon.
Mbappé, 24 buts.
Ben Yedder, c'est buteur. Moi, pour moi, c'est en équipe de France, c'est parce que c'est son sens du but.
Mais regarde,
qu'il maintient en équipe de France.
5 passes décisives. Hein. 24 buts, 5 passes décisives.
Ouais, mais dans l'influence sur le jeu, c'est surtout ce qu'il fait dans la finition.
Je veux dire, il y a du monde. Est-ce qu'on l'enflamme un peu trop en parlant d'équipe de France? C'est trop tôt.
D'un côté, Simon, t'as Dembélé. Dembélé, t'en parles. Moi, entre Dembélé, évidemment, techniquement, dans la percussion,
il y a Ousmane et il y a Moussa.
C'est très fort, mais Randall, on l'a vu cette saison, c'est quand même un état d'esprit irréprochable. C'est un joueur collectif, comme le dit Jean-Marcel. C'est un joueur qui est quand même efficace parce qu'il met quand même des buts. Il a des capacités de percussion incroyables, de vitesse incroyable. Techniquement, il est fort, il saute haut.
Après,
regarde qui est en équipe de France.
Par contre, ça c'est bien. Mais encore, faut-il voir comment il va gérer la saison prochaine, où il va avoir un autre championnat, une phase d'acclimatation et la Coupe d'Europe sans doute à jouer.
Donc, et peut-être la Ligue des Champions.
Mais je pense que c'est là qu'on va on va vérifier si toutes les promesses qu'il a déposées là sur ces deux saisons avec le FC Nantes en Ligue 1 vont aboutir ou pas. Parce que mais jusqu'ici, à chaque fois qu'on a repoussé un peu, enfin qu'on a élevé un peu le niveau dans lequel qu'il a dû élever le niveau pour être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, il a su le faire. Donc.
Et moi, j'écoute ses coéquipiers ou ses adversaires. Randal Kolo Muani, il a quand même souvent été cité comme, je me souviens des Angevins, je crois que c'était Romain Thomas, après un derby qui avait dit.
C'est
le joueur qui est le plus difficile à défendre.
Non, après,
on avait parlé à Castelletto avant la Coupe de France. Il dit, mais quand je le vois à l'entraînement, Kolo Muani, il est incroyable. Enfin, c'est quand même un joueur qui embête tout le monde, tous les défenseurs.
La marche équipe de France n'est-elle pas encore trop haute pour l'instant?
En tous les cas, quand je dis que je suis surpris qu'il soit déjà, même ne serait-ce qu'en présélection, c'est que Didier Deschamps accorde, il le dit tout le temps et le répète, il y a l'importance des matchs à haut niveau et l'expérience européenne. Randal Kolo Muani, il n'en a pas, donc c'est vrai qu'il a actuellement une intégration accélérée. C'est aussi un signal fort qu'on lui envoie, c'est-à-dire qu'il fait quand même partie des 50 aujourd'hui et qu'il est vu et repéré. Et donc pas qu'à Nantes. Et effectivement, l'année prochaine, il a le tremplin, sachant qu'après la Coupe du Monde, on sait aussi qu'il y aura en tous les cas des joueurs de l'équipe de France, il y a des places à prendre après le Mondial. Donc en tous les cas, ça me paraît peut-être un peu tôt là aujourd'hui. On sait tous qu'il a clairement, il a l'envergure, il a le profil pour jouer demain à ce niveau-là. Après, quand, là, c'est un peu plus compliqué. Puis ça dépend aussi des rapports de force, de l'ancienneté du groupe. Il y a plein de choses.
Et après, juste pour finir, je pense que le fait que le Mondial soit
en milieu
de saison, là, on est peut-être déjà aussi dans la tête de Didier Deschamps à envoyer des signaux comme ça à des joueurs qui l'auraient peut-être pas pris pré-convoqué si le Mondial avait été en fin de saison prochaine, quoi.
Donc c'est quand même une possibilité pour lui d'être dans un groupe
à terme,
la Coupe du Monde.
S'il est dans la même évolution, s'il continue sur l'évolution qui est la sienne actuellement, je vois pas ce qui l'empêcherait. Ouais.
Quelques petites infos en plus pour fermer cette deuxième grande partie. On est bavard aujourd'hui. Les changements au centre de formation sont finalement assez résiduels. Franck Moffet remplace Johan Sidaner à la tête des U16. Hein. C'est l'ancien directeur du Pôle Espoir FFF à Saint-Sébastien, remplacé par David Marot. Vous avez sorti l'info au Stade de France il y a quelques heures. Fin de contrat en juin, les autres éducateurs sont finalement prolongés. Ça avait été en débat ici. Stéphane Ziani retrouvera l'équipe réserve, Aris Touy les U19, Francis Liègre les U17 et Franck Moffet les U16. On s'étale pas non plus sur les champs anti-salades des supporters niçois. Je pense que voilà, ils ont regretté en partie. Galtier a été très bon, qu'on boirait aussi pour dénoncer cette bêtise-là. On passe là-dessus. Et puis on a évoqué, petit clin d'œil, tu l'as fait pas, au documentaire participatif de 30 minutes, Le Cœur Jaune, réalisé par Anthony Marseille sur la finale de la Coupe de France, vu des tribunes un peu partout. dans le stade et aussi les gens chez eux à faire la fête avec les copains. Ça met les poils, c'est super bien. Donc bravo à Anthony Marsès, ça s'appelle Le Cœur Jaune et vous retrouvez ça sur YouTube, les amis.
Le concept, était top puisqu'il a fait appel en fait à tous les gens qui ont vécu ce moment-là, qui leur envoient les vidéos.
C'est
les vidéos, je crois qu'il y a 1150 contributeurs.
Ouais, j'ai pas pu voir jusqu'à la fin, moi j'avais une poussière dans l'œil, c'était vraiment terrible.
Non, c'est vrai, bravo Quel Anthony Marsès.
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
L'accalmie de la Coupe de France aura été de courte durée. Trois salariés du FCN soupçonnés d'être liés à des transferts douteux ont fait de la garde à vue ces derniers jours. Pourquoi la justice s'intéresse-t-elle à l'agent Bakary Sanogo et quelles conséquences pour le FC Nantes ?
Johnny Hallyday.
Quelle chance à celui qui veut ma place.
J'ai refusé
et l'amour enchaîné.
Ouais.
Le titre, Gabriel. Bien sûr, Gabriel, Johnny Hallyday. Certains n'ont pas envie de mourir d'amour enchaîné aux agents qui sévissent dans l'entourage de Valdemar Quita en matière de transfert. On a longuement et à plusieurs reprises parlé ici des gros problèmes judiciaires de Moji Bayat, qu'on a aussi appelé à un moment le directeur sportif officieux du FC Nantes. Cette fois, c'est de Bakary Sanogo dont il s'agit, avec trois salariés de la direction du FC Nantes qui ont fait de la garde à vue. Pab, je te laisse nous en dire un mot, puisque c'est Presse Océan qui a sorti le premier cette info.
C'est ma collègue Anne-Hélène d'Horizon qui bosse au fait divers chez nous, qui est très bien enseigné et qui ça a fait l'effet du bon parce que c'est sorti le mardi alors que Nantes gagne la Coupe de France le samedi. Dans la journée de mardi, en fait,
la veille du derby contre Rennes,
il y a trois salariés de la direction du FC Nantes proches de Valdemar Quita qui ont passé la journée en garde à vue, et c'est le parquet de Nantes dans les locaux de la section financière de la direction territoriale de la police judiciaire de Nantes. Ils ont été remis en liberté en fin de journée et les enquêteurs s'intéressent sur des commissions perçues par des intermédiaires autour de transferts de joueurs.
Les policiers s'intéressent aux transferts qui se déroulent au FC Nantes d'un point de vue administratif, financier, comptable, etc. Juridiquement, comment travaille le FC Nantes ? A priori, il y a des choses qui sont douteuses. De quel transfert parle-t-on, Jean-Marcel ? Pourquoi la justice s'intéresse-t-elle à l'agent Bakary Sanogo, puisque c'est de lui dont on parle ?
En fait, c'est parce qu'il est présent dans tous les transferts. Ce qui a un peu au départ mis la puce à l'oreille des enquêteurs, ou ce qui les a, si ce n'est pas inquiétés, en tous les cas interpellés, c'est pourquoi lorsqu'il y a un transfert à Nantes ou une prolongation de contrat ou un document juridique, en fait, systématiquement il y a évidemment l'agent du joueur qui est représenté, mais il y a Bakary Sanogo qui est représenté ou qui est missionné par le club. Ça les étonne, c'est légal. Faut lire, on peut se faire missionner par le club, mais en fait, ce que cherche à savoir la justice, c'est est-ce que ces prestations-là, elles correspondent, en tous les cas, ces rémunérations, est-ce qu'elles correspondent à des vraies prestations ? C'est-à-dire que sachant que le club...
C'est Pénélope Fillon, quoi.
Sachant que le club a notamment un cabinet juridique, si par exemple, je suis l'agent de X joueur, j'apporte... une offre pour mon X joueur d'un club espagnol, je le dépose sur la table du FC Nantes avec un montage en disant voilà, c'est 10 millions d'euros, donc normalement il y a 10% pour l'agent du joueur. Donc pourquoi systématiquement Bakary Sanogo figure et donc est commissionné là-dessus pour représenter le club? Le club fait le choix qu'il soit le représentant du club. Donc ça, c'est la première chose qu'intéressent les enquêteurs, donc ils sont en train aussi de se rompre un peu aux pratiques et au monde du foot. Ça sera à l'enquête et éventuellement à la justice après demain de dire si effectivement les commissions perçues ne sont pas en rapport avec des prestations. Et puis la deuxième chose, si les commissions aussi ont respecté la perçue, sont toutes légales.
La pratique qui a déjà été condamnée dans d'autres clubs que le FC Nantes, possible, et donc on est là dans une hypothèse, on est au conditionnel, c'est la pratique de la rétrocommission, c'est que ce soit des commissions fictives qui permettent de récupérer de l'argent aux uns ou aux autres.
Oui, mais enfin, avant d'en arriver là, déjà, il faut juste savoir s'il remplit bien un rôle, en tous les cas, sur les missions qui lui sont confiées. Ne serait-ce que ça, Bakary Sanogo, il est assez connu dans le milieu puisque c'est l'oncle de Moussa Sissoko, l'international français. Il a démarré à Aulnay, pas trop loin de Villepinte où est issu Randal Kolo Muani. Donc il a encore quelques commerces là-bas. C'est un agent qui a énormément de joueurs dans le foot, qui fonctionne beaucoup à l'affect, mais qui n'est pas licencié en France, qui est adossé à un avocat, qui est plutôt licencié dans son pays d'origine au Mali. Donc avant de parler de rétrocommission, commission, il faut déjà savoir s'il rend un réel service au FC Nantes, et puis si en tous les cas, son expertise permet au FC Nantes de faire signer des joueurs, et que si elle était absente, on n'arriverait pas à les avoir. Et ça, c'est le du problème. Pour la petite histoire, ce qui est quand même incroyable, c'est que donc le jour, donc c'est, ils ont été, il y a eu 3 salariés qui ont été un peu sonnés, choqués quand même, placés en garde à vue le mardi. Et Bakary Sanogo était au match, au derby, comme si de rien n'était, oui, le mercredi,
au stade, le lendemain,
au FC Nantes.
Croisé au stade, ouais. Mais Bakary Sanogo, oui, la justice s'intéresse à lui depuis un petit moment, hein, parce qu'il est dans plusieurs affaires. L'équipe avait sorti une histoire sur lui, comme quoi il était visé par une enquête visant une escroquerie à la carte bancaire, donc rien à voir avec le foot, mais pour 3 millions d'euros en Suisse en 2017. Moi, j'avais eu, au moment de l'affaire Salah, l'avocat du club de Cardiff qui a déposé plainte en janvier 2020 contre le FC Nantes, et le maître Antoine V, qui était l'avocat du club de Cardiff, avait dit que voilà, lui, il pensait que les 17 millions d'euros du transfert de Salah n'étaient pas vraiment ceux de l'indemnité de transfert, mais un prix négocié entre plusieurs intervenants douteux qui se sont servis au passage. C'était ses propos à lui, et il citait dedans Bakary Sanogo. Et
Bakary Sanogo a déjà été cité aussi par d'autres agents sur d'autres transferts du FC Nantes.
Il est
sur
aussi
des faits un peu similaires, quoi, qui lui seraient reprochés.
Il y a aussi la FIFA qui s'est intéressée à son cas, parce que, comme tu disais, Jean-Marcel, il est agent au Mali, mais il n'est pas officiellement agent en France. Et il était aussi dans l'affaire de
Pape
Gueye, voilà, du Havre à Marseille. En fait, Pape Gueye, il devait signer à Watford, un club où Mojib Hayat a ses entrées.
Il avait signé, non ?
Il avait signé, oui.
Voilà, et au dernier moment, il a fait volte-face, il a signé à Marseille, et le joueur a fait valoir, argumenté, en disant qu'il avait été abusé par M. Sanogo.
Alors, quelles conséquences pour le Football Club de Nantes de ces gardes à vue et de cette justice qui s'intéresse au transfert du FCN via cet agent Bakary Sanogo pour le FC Nantes, pour la présidence de Waldemar Kita? Quelles conséquences ça peut avoir? Et est-ce qu'on ne peut pas se dire que l'étau se resserre avec l'enquête du parquet national financier, sachant qu'on rappelle que ce sont deux choses différentes, Julien, l'enquête du parquet national financier pour fraude fiscale soupçonnée et cette enquête-là?
Bien sûr, ce sont deux choses complètement différentes, distinctes aussi. Aujourd'hui, il y a toute la procédure qu'a expliqué Jean-Marcel concernant l'affaire qui a conduit 3 personnes du FC Nantes, 3 salariés du FC Nantes en garde à vue. Il y a toute une enquête et une instruction qui va être mise en place. Donc, il faut attendre ça. Directement, je n'ai pas l'impression que la direction du FC Nantes soit menacée de quoi que ce soit, directement et à très court terme.
Ce que peuvent se dire certains de nos auditeurs, hein, c'est que attention, la justice arrive. Est-ce que d'un seul coup, on peut nous apprendre que Waldemar Kita arrêté et que le club est en difficulté?
Honnêtement, non. C'est
pas imminent.
Pas le chemin et c'est pas imminent. Hein.
Okay. Les taux se resserrent, par contre.
Mais après,
les taux se resserrent. Pour moi, je trouve que c'est deux affaires complètement différentes. Il y en a une qui vise Waldemar Kita sur sa propre personne,
et sur sa fortune personnelle,
sur sa gestion fiscale.
Voilà, et sur sa fortune personnelle. Donc c'est Monsieur Waldemar Kita qui est ciblé. Là, il se trouve que ce sont les pratiques du FC Nantes et du club. C'est pas tout à fait.
Et c'est un peu plus embêtant
pareil,
pour le club.
Alors sachant qu'on est contrairement à l'enquête fiscale qui est rendue assez loin, où on attend peut-être demain des possibles mises en examen. En tous les cas, ils sont rendus assez loin. Là, on est quasiment à peu près à mi-chemin sur ce qui concerne l'enquête sur les transferts, puisqu'il y a eu des joueurs qui ont été auditionnés, il y a eu des salariés, c'est vrai que là il y a un coup d'accélérateur, qui ont été en garde à vue. On peut supposer demain qu'il y en aura d'autres, des gardes à vue, ce qui en tous les cas, si pour répondre à la question, ce qui peut changer
ou d'autres auditions en témoin libre, je pense,
ou d'autres auditions en témoin libre. Mais en fait ce qui va changer, c'est que le FC Nantes va vivre avec cette épée de Damoclès là, mais comme on l'a déjà dit, sur le rythme judiciaire d'institution judiciaire est pas du tout le même que celui du foot. Et vous voyez, 4 jours après une finale la Coupe de France, c'est quand même un retour à la réalité qui est brutal. Si ça peut changer des choses, c'est peut-être aussi dans les joueurs qui ont envie de venir à Nantes, ou si pas les joueurs, en tous les cas les agents, où ça peut compliquer un peu les relations demain.
Des pratiques douteuses sur les transferts, est-ce que ça peut nous donner un FC Nantes interdit de recrutement, comme ça a été le cas il y a quelques années?
Là encore, je ne suis pas malin, je parle non, que des faits et des choses, je ne suis pas...
Non, mais c'est une possibilité, on a déjà connu ça, c'est pour ça que je pense à ça.
Aujourd'hui, c'est un volet judiciaire avec le parquet de Nantes, ce n'est pas la Fédé ou la Ligue, c'est un volet purement judiciaire. Après, comme disait Jean-Marcel tout à l'heure, le problème, c'est que tu lèves le voile sur des pratiques possible dans le football, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, mais tu as, on a cité les cas de Bakary Sanogo. On sait qu'à Nantes, il y a Moji Bayat qui a ses entrées, qui est visé par le Football Gate et qui est poursuivi en justice en Belgique. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de personnes dans l'environnement du FC Nantes qui sont sous l'œil de la justice. Voilà.
Allez, je vais ajouter.
Sachant que je suis pas sûr aujourd'hui que la justice, lorsqu'elle enquête sur les transferts FC Nantes, ne se réserve pas la possibilité de te faire aussi d'étudier le rôle de Moji Bayat. Pour l'instant, on est sur celui de Bakary Sanogo, mais
il y en a d'autres, Jean-Marc.
Mais je crois qu'il y a aussi celui de Moji Bayat.
La justice pourrait s'intéresser à lui en France également. Le maire de Vers-sur-Loire, tiens, Éric Lucas, pourrait s'implanter la Genelière, la future Genelière, futur centre d'entraînement, a écopé il y a quelques jours de 2 ans d'inéligibilité et 3 000 euros d'amende. Il a fait l'appel de sa condamnation et il bénéficie donc toujours de la présomption d'innocence. Il lui est reproché 2 délits de favoritisme dans des marchés publics. Le premier concerne des travaux de voirie, le second un achat de camion benne. Et a priori, selon nos informations, le camion benne en question n'a pas vocation ni à participer au déménagement de la Genelière ni à commencer les travaux. Voilà une info sans contrôle qu'on vous livre. C'est un petit clin d'œil puisqu'on parle d'affaires judiciaires. Et puis en conclusion, quand même, cette info, vous nous avez interpellé sur le sujet sur les réseaux sociaux. On a vu comme vous, après l'équipe TV, un confrère de Presse Océan annoncer à son tour la possible vente du FC Nantes via une offre de rachat d'un fonds d'investissement basé au Luxembourg avec des dirigeants israéliens. De notre côté, ici autour de la table, pour être clair, on n'a rien sur le sujet. Donc rien à commenter.
La seule chose dont je sais en Israël, c'est que le FC Nantes va disputer le trophée des champions contre le PSG à Tel Aviv.
Voilà. Sur ce sujet-là.
Et que certains confrères sont déjà ravis de pouvoir y participer en tant que suiveur.
Tu parles de qui, Juju?
Des confrères. Ils auront la chance d'y être.
Je ne dis rien du tout.
C'est pas des vacances. Hein.
Ah ben c'est pour ça qu'ils auront la chance d'avoir un vrai match de foot. Quoi.
Avec peut-être un nouvel entraîneur sur le banc.
31 juillet.
Ou un nouveau titre à la clé.
Tu parles pour le Paris?
Peut-être. Pour les deux. Pour les deux. Ça va être passionnant. Merci messieurs. On a été un petit peu long encore. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison après la fête face à Saint-Étienne. Salut.
Salut.
Salut à tous.
Salut tout le monde.
Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest France, Presse Océan et It West. Allez.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.